Bonjour à tous, il est tout juste midi sur France Culture. Bienvenue à La Grande Table, une émission réalisée par Philippe Baudouin, préparée avec Raphaël Bourgois, Jeanne Léos, Clémence Marie et Boris Pinault. La Grande Table, c'est jusqu'à 13h30, deux parties qui entremêlent la culture et les idées. Et au milieu, le journal de 12h30, présenté par Antoine Mercier. Bonjour Antoine.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. La Grèce devrait devenir ce soir le premier pays industrialisé à faire défaut vis-à-vis du FMI. Le pays ne devrait pas en fait pouvoir rembourser le 1,5 milliard d'euros qu'il doit au Fonds monétaire international. Pour le ministre de l'économie français, toutefois, un éventuel défaut de la Grèce ce soir ne sera pas sans grandes conséquences. En revanche, les partenaires de la Grèce s'accordent à dire aujourd'hui que la sortie ou le maintien du pays dans la zone euro, c'est bien l'enjeu du référendum qui aura lieu dimanche dans ce pays. On y reviendra longuement tout à l'heure dans l'édition complète de la mi-journée. Ce devrait être aujourd'hui aussi la date butoir des négociations de Vienne sur le nucléaire iranien, mais une nouvelle fois, la date limite a été repoussé sans doute encore d'un mois. Le chef de la diplomatie américaine John Kerry et son homologue iranien reprennent en tout cas leur pourparlers aujourd'hui. Également attendu à Vienne, le russe Sergueï Lavrov. Selon le procureur de la République de Paris, l'attentat qui a été commis vendredi en Isère par Yassine Salih est bien de nature terroriste. Il correspond, dit-il, très exactement au mot d'ordre de Daesh. Et puis, on dira un mot de la vigilance orange canicule qui a été lancée hier par Météo France, qui concerne aujourd'hui 26 départements pour un épisode caniculaire qui va débuter à 14h et qui pourrait se prolonger jusqu'à la fin de la semaine. L'invité du journal, tout à l'heure, l'historien François Giré. On parlera évidemment de ces négociations de Vienne sur l'Iran. Voilà, c'est à vous Caroline pour la grande table qui commence.
Et oui, qui commence avec quatre invités. Ils sont quatre, ils jouent sur des instruments à cordes. Ils portent le nom d'un peintre dont la devise était « Ton devoir réel est de sauver ton rêve ». Ces quatre jeunes musiciens ont une triple actualité. L'ouverture samedi prochain d'un festival dont ils ont repris les rênes il y a un an et où ils donneront un concert dans une semaine en ouverture d'une tournée estivale et un disque à la rentrée. Le quatuor Modigliani est avec nous. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour. Bonjour.
C'est toi qui levais la main tout à l'heure.
Comment ça s'appelle ce qui est petit là-bas?
Ce qui est petit là-bas. Cet instrument, c'est un violon, j'ai l'impression que c'est
oui,
ça.
Oui, c'est hein. Un violon.
C'est ce que tu voulais savoir?
Un quatuor à cordes, c'est une famille, tu vois.
Comment tu t'appelles?
Françoise.
Alors tu vois, un quatuor, c'est une famille. Il y a le papa, il y a la maman, et il y a les deux enfants, qui sont bien sûr plus petits. Et nous sommes tous très proches, on se sépare pas. Et d'ailleurs, le monsieur Haydn, l'auteur de ce quatuor, on l'appelle le père Haydn parce qu'il est le père et de la symphonie et du quatuor. Il en a écrit une centaine dans sa vie.
C'était Jacques Parrainin, le fondateur du quatuor Parrainin, dans cette archivina de 1973 sur France Musique. Alors tous les quatre, est-ce que vous êtes une famille? Qui est le père, qui est la mère, qui sont les deux enfants?
Alors, je pense qu'on
Philippe
est
Bernard.
On est définitivement une famille, mais je crois qu'on est plutôt quatre enfants.
Vous êtes tous d'accord?
On est tous d'accord.
Oui, c'est plus une fratrie,
en tout cas humaine. Non.
Ou une amitié?
Les deux, pourquoi pas.
Fratrie amicale. Donc Philippe Bernard, bonjour à vous. Vous
bonjour.
Êtes le premier violon. À côté de vous, c'est Laurent Marfin qui est alto.
Voilà, bonjour.
Puis Loïc Rio qui est le deuxième violon. Et enfin François Kiff qui est le violoncelle du quatuor.
Kiefer, mais...
Kiefer. François Kiefer. François Kiefer.
C'est mon surnom, mais on peut...
Kiff.
Voilà, exactement.
C'est votre surnom. Depuis quand vous travaillez tous les quatre ensemble?
On travaille ensemble depuis 12 ans. On s'est rencontrés au conservatoire. On était amis.
Conservatoire de Paris.
Au conservatoire de Paris, exactement. Et je crois qu'on avait cette idée forte de vouloir partager de la musique ensemble. Il y en a qui se destinent tout de suite à une carrière de soliste ou à de l'enseignement. Et nous, c'était le fait de pouvoir, en fait, partager, lire de la musique ensemble. Et c'est ce qui nous a donné envie de continuer.
Vous disiez que vous étiez quatre enfants plutôt que deux parents et deux enfants, Philippe Bernard. En même temps, est-ce qu'il ne faut pas qu'une voix, ou plutôt un instrument, ressorte dans un quatuor ? Est-ce que les quatre instruments sont à égalité ?
Attention à ce que tu vas dire.
Hein. Non, c'est justement le principal débat. Le travail qui nous anime, c'est-à-dire qu'il faut arriver à chercher une forme d'uniformité, un sens, un goût commun de la musique, mais à la fois ne jamais renoncer à nos personnalités individuelles. On renonce à notre individualisme au sens où on tire pas la couverture à soi dans un groupe, mais par contre on cherche à trouver cet équilibre entre égalité, unisson et unité des timbres, mais aussi à sauvegarder justement ce qui fait que chacun est lui-même et ce qui apporte une personnalité plus riche au groupe que si on était quatre clones.
À la fois quatre et un seul, Loïc ?
Oui, je suis tout à fait d'accord.
Rien à ajouter particulier.
Voilà, plus qu'une addition, c'est une confrontation aussi parfois d'idées, de personnalités, de sensibilités qui doivent aller dans une même direction, une forme d'unité, d'identité finalement.
Par quoi passe une confrontation quand vous abordez une partition ? Qu'est-ce que vous appelez la confrontation des idées ?
Je pense qu'on arrive avec chacun un vécu qui peut être différent avec une œuvre. Pour certains, on la connaît depuis très longtemps, d'autres on l'a adorée, on l'a détestée, on a chacun un vécu particulier avec une œuvre avant de l'aborder. Et donc évidemment, la première répétition, chacun arrive avec sa propre histoire de l'œuvre. Et donc c'est plutôt assez enrichissant quand ça se passe bien de pouvoir chacun se raconter une histoire et d'en faire la nôtre.
Laurent Marfin.
C'est vrai que c'est souvent intéressant de voir qu'on a des opinions un petit peu différentes au tout début et qu'au fil du temps, au fil des répétitions et des concerts, l'œuvre évolue et nos goûts à nous aussi évoluent d'une certaine manière. Mais on finit toujours par avoir une unité générale. Tout le monde pense la même chose et tout de suite après, dès qu'on repense à la version qu'on imaginait, qu'on aimait bien à l'époque, par exemple, eh bien on se dit c'est vrai que c'était un autre univers parce qu'on se l'était pas fait sienne au final. Donc c'est vrai, le fait de se connaître et de travailler autant à quatre, on a forcément cette envie commune de bien faire les choses.
Et c'est vrai aussi que je pense que nos enregistrements, tout ce qu'on fait, au final, passe les années, mais au fond, on essaye de donner des versions qui vieilliront bien. C'est ce qu'on s'est toujours dit dans notre quatuor en fait. Donc on écoute aussi beaucoup de musique ensemble, on compare certaines versions qu'on a aimées et c'est je pense ce goût commun qu'on essaye d'avoir depuis des années avec aussi les voyages, les différents musées qu'on peut découvrir ensemble et on a peut-être cette personnalité forte à quatre.
Louis Criot.
Tout à fait.
Vous leviez la main, ou alors.
Oui, non, mais c'est vrai. Pour revenir à votre petite intervention là, au tout début d'émission, on entendait
Jacques Parrainin.
Oui, il y a aussi.
Olivier d'enfant.
Évidemment, on se base par rapport à l'esthétique du compositeur qu'on va jouer, mais il y a aussi toute une histoire de l'interprétation. Maintenant, on a plus de 100 ans de témoignages, enfin plus de 100 ans, à peu près 100 ans de témoignages au disque. Donc voilà, il y a aussi. On peut voir un peu comment on jouait telle œuvre. Donc par exemple, les Parrainins étaient formidables dans le répertoire français, bah, particulièrement. Et donc c'est intéressant. Pour nous de voir aussi quelle a été l'évolution des interprètes au fil des modes, des années, des pays. Et donc après, ça nous d'écouter ça aussi à quatre ensemble, ça nous permet aussi de définir un goût, j'imagine.
Encore un mot sur votre quatuor. Je disais que vous portez le nom d'un peintre, de fait, d'un artiste en tout cas, Modigliani. Pourquoi ce nom ?
Il y a plusieurs raisons. C'est vrai qu'on s'est rencontrés en 2003 lors d'une rétrospective Modigliani au Palais du Luxembourg à Paris. Et c'est un peintre qui nous a marqué. Quand on va, par exemple, au Metropolitan ou dans un musée, on peut avoir un Picasso et un Braque et ne pas savoir exactement qui a peint quelle toile. Et au fond, Modigliani a une personnalité unique. C'est-à-dire qu'on en voit une fois dans sa vie et on s'en rappelle. Et je crois que pour nous, c'était assez important de faire faire aussi ce parallèle avec notre signature sonore, parce que ce qui compte, c'est qu'on puisse nous reconnaître avec notre patte sonore, avec notre son, ces 16 cordes. Et je crois que en tout cas, la vision du peintre aussi nous a plu, le fait de pas se laisser influencer par différents courants et différentes modes de l'époque et de tracer sa voie. Je crois que nous, on a depuis le début eu la chance d'être entourés et en même temps eu la chance de bien s'entendre tous les quatre et d'essayer en tout cas de continuer dans cette voie.
Qu'est-ce qui distingue, puisque vous parlez de patte sonore, François Kieffer, qu'est-ce qui distingue un quatuor par rapport à un autre quatuor? Les instruments, votre personnalité individuelle, comme vous le disiez Philippe Bernard, et la façon dont ensemble vous arrivez à jouer, comment on arrive à vous reconnaître vous? Parce que c'est vrai, quand on écoute ce que vous faites, vous avez des disques enregistrés notamment, on entend effectivement une signature, mais je suis incapable de la définir. J'aimerais bien que vous essayiez de le faire, Philippe Bernard.
Alors, je pense qu'on pourrait utiliser toutes sortes de termes techniques, mais pour moi, ça va au-delà de l'aspect technique, en fait. Je crois que ce qu'on entend, c'est l'histoire humaine qu'il y a derrière. Et c'est ça qui forge un son. C'est tout ce qui a été vécu ensemble. Et je pense que c'est pour ça que c'est aussi très précieux d'avoir la chance de rester tous les quatre ensemble, sans changer de membre, comme ça, malheureusement, arrive souvent dans les quatuors. C'est qu'en fait, depuis qu'on a commencé en 2003, on a vécu 1000 choses qui nous ont forgés, qui ont forgé nos goûts, qui ont forgé nos envies. Et je pense que c'est ça qui petit à petit définit une identité. Et donc l'identité de son de notre quatuor, elle est évidemment influencée par les instruments qu'on joue, mais les instruments qu'on joue, c'est nous qui les avons choisis. Et si on les a choisis, si on a choisi celui-là plutôt qu'un autre, c'est pour son son. Par exemple, je trouve que les instruments qu'on a choisis, ils ont tous quelque chose en commun, qui est une chaleur du timbre, qui est pas un pari sur la puissance brute, mais beaucoup plus sur la qualité du timbre, sur un timbre qui va vraiment parler au cœur. Et voilà, moi je pense que c'est vraiment c'est l'amitié, c'est l'aventure de quatre personnes qui vivent tellement de choses ensemble, qui fait qu'au fond ils se forgent une identité sonore sans même s'en rendre compte, en fait.
Est-ce que vous vous inscrivez dans une filiation particulière? Il y a quelques grands quatuors qui ont existé avant vous. Vous êtes des trentenaires, donc oui. Alban Berg, Amadeus, Artemis, Isaïe, avec qui d'ailleurs vous avez travaillé. Dans quelle filiation vous inscrivez-vous?
Isaïe ont été nos premiers professeurs et une source de motivation incroyable quand on est tout jeune. C'est l'exemple. On veut tous. Je dis ça, mais en plus c'est vrai parce que beaucoup d'étudiants là du conservatoire rêvent tous de faire du quatuor. Et c'est formidable. Donc évidemment le quatuor Isaïe, ensuite on a étudié un peu avec les Artemis, mais tous sont quelque part des exemples dans les choix de carrière, leur vie. Et ce qui est formidable dans le quatuor, c'est dans le monde du quatuor, c'est qu'il n'y a aucun quatuor qui se ressemble et qui a la même vie et les mêmes problématiques et les mêmes envies de répertoire. Et on va revenir au son aussi. C'est la magie du quatuor qui fait qu'il n'y a aucun quatuor qui se ressemble. Peut-être des violonistes, vous allez pouvoir trouver quelques similitudes entre des violonistes de même école, de même type d'instrument, le son d'un tel peut ressembler, se rapprocher du son de tel autre. Un quatuor, c'est impossible parce que vous multipliez par quatre. Je suis nul en maths, donc je vais m'arrêter là. Mais voilà, il n'y a aucun quatuor, même si on a les mêmes professeurs, les mêmes instruments, qui peut se ressembler à un autre.
Et au fond, je pense que chaque instrumentiste a son son et sa personnalité. Il pourrait jouer sur n'importe quel instrument, il aurait son son. C'est-à-dire que le fait d'avoir, nous, par exemple, ces instruments italiens, ça nous permet d'aller au-delà, dans des couleurs, dans des nuances, dans une recherche de phrasé. Mais il y a une anecdote qui est assez drôle, qu'on raconte souvent. C'était un concert d'Haïfetz à New York, où une personne vient le voir à la fin du concert et lui dit « Maître, c'était exceptionnel, votre violon sonne magnifiquement bien ». Et il prend son violon, c'est Étienne Batelot qui nous racontait cette histoire, le grand luthier, et il porte près de son oreille, il lui dit « Écoutez, je n'entends rien ». Thank you.
Voilà un extrait du troisième mouvement Menuetto du Quatuor numéro 60 en sol majeur, opus 76, numéro 1 de Haydn. Haydn dont Jacques Parrainin tout à l'heure disait que c'était le père du Quatuor à cordes. Est-ce vrai pour vous, Philippe Bernard?
C'est très vrai, et souvent on se dit que c'est la base de tout. Et déjà historiquement, il écrit les premier vrai chef-d'œuvre. Le quatuor commence un tout petit peu avant lui. La forme du quatuor existe un tout petit peu avant lui, mais c'est vraiment lui qui écrit les premières pages qui vont marquer l'histoire du genre. Et puis c'est surtout lui qui va influencer tout le monde derrière. C'est-à-dire que Mozart, qui était génial, qu'on le sait tous, sera extrêmement influencé par Haydn, et ils auront beaucoup d'échanges à propos de la composition du quatuor, puisque le quatuor n'était pas un genre si familier à Mozart. Justement, c'était un des seuls genres où il avait de la difficulté pour écrire. Beethoven, évidemment, sera quasiment le remplaçant de Haydn, puisque c'est lui qui va prendre sa relève. Haydn s'arrêtera d'écrire des quatuors au moment où Beethoven commence. Donc voilà, c'est à ce titre-là, c'est le père du quatuor. Et puis je pense que c'est aussi une figure humaine vraiment particulière, parce que c'était un homme sain, plein d'humour. Enfin, moi je ne l'ai pas connu, mais c'est ce qu'on en dit, c'est ce qu'on en sait. C'est-à-dire quelqu'un qui n'était pas une personne excessive, comme on peut savoir Mozart, qui était presque un jeune fou, ou Beethoven, qui était, alors lui, un vieux fou. Mais Haydn était quelqu'un de très normal, ce qui est dans l'air du temps.
Et c'est ce qu'on ressent dans sa musique, au fond.
Et c'est ce qu'on ressent, c'est-à-dire que y a vraiment, c'est plein d'humour, c'est une musique qui est saine, et qui pour nous aussi, c'est un peu comme se laver les mains, c'est une question d'hygiène, c'est-à-dire que vraiment Haydn, ça purifie. Et pour nous, c'est un peu une base, c'est-à-dire que c'est le deuxième enregistrement, celui qu'on vient d'entendre, il fait partie d'un deuxième disque Haydn qu'on a fait. Pourquoi on en a fait déjà deux? C'est parce que c'est comme une balise dans notre parcours. C'est quelqu'un qui nous rappelle un petit peu la marche à suivre. C'est-à-dire qu'on voit tout de suite si on s'égare dans sa musique.
Vous avez enregistré Haydn, vous avez aussi enregistré Schumann, Brahms, Mendelssohn, Debussy, Saint-Saëns, Ravel. Vous avez fait un quintet Schubert également, parce que vous travaillez aussi en quintet parfois. C'est ce que vous allez faire d'ailleurs lors du concert que vous allez donner le 8 juillet à la Grange au Lac. Vous parliez de Beethoven, Philippe Bernard. Vous n'avez jamais enregistré Beethoven? Pour quelle raison?
Alors parce que Beethoven est lui aussi une personnalité unique dans le monde du quatuor. C'est quelqu'un qui, en plus de marquer son temps, a fait peur à toutes les générations qui ont suivi de compositeurs, d'interprètes aussi. C'est vraiment, c'est un tournant dans l'histoire du quatuor. C'est-à-dire à partir du moment où il écrit ses quatuors, il a trois périodes, la première période, la période centrale, médiane et les derniers quatuors. Et à partir de la période centrale, en fait, il y a un vrai problème qui apparaît, c'est que les musiciens n'arrivent plus à interpréter sa musique comme il le faisait à l'époque. À l'époque, le quatuor à cordes, c'était un genre familial, amical, on se rassemblait dans les salons et on lisait des partitions. Et les quatuors de Beethoven, tout simplement, à partir d'un certain point, ils sont illisibles à la lecture. C'est-à-dire que c'est beaucoup trop difficile pour ne pas les travailler. Le premier jet n'existe plus.
Donc comme on n'aime pas travailler,
Louis Criot,
on ne l'enregistre pas.
Non, mais c'est vrai qu'il y a aussi d'autres explications. Je pense que nous, on a été aussi proches de certains compositeurs, comme la musique française, quand ça a été le cas du disque Saint-Saëns, Ravel, Debussy. Et je pense qu'on nous attendait aussi dans cette musique française. Donc c'est des choix qu'on a fait aujourd'hui. Le quatuor Alban Berg a montré avec son niveau d'exigence et a monté le niveau du quatuor à un tel sommet avec ces enregistrements des quatuors de Beethoven qu'aujourd'hui, c'était pas encore le moment pour nous, mais on y viendra.
Vous parlez beaucoup de la difficulté les uns les autres, difficulté à jouer. C'est vrai que l'une des particularités, une des spécificités du quatuor à cordes, c'est sa réputation de jouer des œuvres très difficiles, c'est dur parfois même pas d'écouter, mais de les interpréter. Est-ce que vous savez, vous pourriez nous expliquer, Loïc Riault, pourquoi c'est si difficile et du coup sans doute aussi difficile à transmettre?
Alors, on pourrait en parler longuement, mais je pense que ce qui est assez extraordinaire dans ce genre, c'est que c'est exprimer et créer un univers gigantesque avec très peu de moyens. On a juste quatre instruments, 16 cordes, Et avec ces 16 cordes-là, le compositeur s'est confronté. Et au début, il écrivait justement que de la musique un peu de salon, galante. Et on commençait à créer des univers et des œuvres qui, en elles-mêmes, pouvaient être considérées comme des chefs-d'œuvre. Et donc, pour l'interprète, c'est aussi assez complexe, avec toujours si peu de moyens, d'exprimer, de retranscrire aussi toute cette mise en relief et tout cet univers.
Voilà. Exprimer, transcrire et transmettre. Vous avez tous les quatre repris les rênes l'année dernière d'un festival intitulé Les Rencontres musicales d'Évian à la Grange au Lac, après 13 ans d'interruption depuis la mort de Rostropovitch, qu'il avait présidé pendant de nombreuses années. L'esprit de ce festival, vous le maintenez, vous avez à cœur de transmettre votre musique. Le fil rouge de cette deuxième édition, c'est Vienne, Vienne du tournant du siècle avec la musique post-romantique. Vous allez donc donner un concert le 8 juillet prochain. Vous allez jouer Mozart en quintette.
Oui.
Vous allez jouer Schoenberg, voilà. La nuit transfigurée, opus 4. Et vous allez jouer le quatuor américain numéro 12 en fa majeur de Dvorak. Loïc Rio, juste un mot avant de rejoindre vos camarades pour interpréter le final de ce quatuor.
Pardon. De ce quatuor, oui, c'est une œuvre peut-être parmi, avec la symphonie du Nouveau Monde de Dvorak, son œuvre la plus connue. Elle est composée la même année d'ailleurs. Il est en Dvorak, donc c'est un compositeur tchèque qui a voyagé donc aux États-Unis. Il est aux États-Unis quand il écrit ce quatuor, et il est assez représentatif d'une pré-mondialisation, entre guillemets, c'est-à-dire que, évidemment, il y a tout son patrimoine et sa tradition de musique européenne de l'Europe centrale, héritée de ses maîtres, Brahms, Beethoven, évidemment, mais aussi de sa patrie, donc, et puis la bohème, etc. Puis, il va aux États-Unis, il découvre les musiques noires américaines, les musiques indiennes, et il en fait ce quatuor et cette symphonie. Donc là, ce sera le final du quatuor américain.
Alors, les trois camarades sont déjà installés derrière moi dans le studio 108 de la Maison de la Radio. Ils règlent encore un peu le son de leur merveilleux instrument. Vous allez les rejoindre, Loïc Rio. Quand vous êtes prêts, vous me faites un petit signe. Vous êtes prêts? Alors on vous écoute pour ce final du quatuor américain. Thank you. Merci beaucoup, le quatuor Modigliani en direct dans la grande table sur France Culture. L'intégralité de ce quatuor américain de Dvorak sera donnée donc le 8 juillet au festival Les Rencontres Musicales d'Évian. Le festival, c'est du 4 au 11 juillet à la Grange au Lac à Évian, où on pourra entendre, outre ce formidable quatuor, les pianistes Vanessa Wagner, Fazil C, Bertrand Chamaillou, le violoncelliste Edgar Moreau. Le concert sera donné le 8 juillet, mais aussi au Festival d'Aix-en-Provence du 13 au 15 juillet, le 27 juillet à la Roque d'Anteron. Et un disque sera consacré à Dvorak, à Doany, à Bartok en octobre 2015. Merci à tous les quatre d'être venus. Et à 12h28 sur France Culture, c'est l'heure de retrouver Thibaut Sardier et La Petite Minute.
Bonjour Caroline. À chaque année, son prince de Hombourg. L'an dernier, la pièce de l'auteur allemand Heinrich von Kleist était au Festival d'Avignon, dans une mise en scène signée par l'italien Giorgio Barberio Corsetti. On doit aussi la version 2015 à un italien, Marco Bellocchio, mais cette fois, c'est un film tourné en 1996, sélectionné à Cannes à l'époque, et demain, pour la première fois dans les salles. Alors pour tout dire, j'ai d'abord craint durant les 10 premières minutes un essai un peu lassant de théâtre filmé avant de me laisser totalement emporté par ce film. Avant de revenir sur son histoire, extrait avec l'une des scènes clés, un champ de bataille, la guerre qui fait rage et le prince de Hombourg qui, malgré des ordres stricts, décide de lancer avec un peu d'avance la charge de la cavalerie.
Ragazzi, il solente, ecco la pilota spalla.
Principe, che fate?
Taci, sei guardie, portatelo via e agli arresti. E adesso la parola d'ordine è questa: chi non segue il suo generale in battaglia è un traditore. Chi di voi resta?
Perché ti agiti, Dan? Non hai sentito?
Arthur, ti avevamo dato solo un consiglio.
La responsabilità è tua. E io ti seguo.
Certo, la responsabilità è mia. Seguitemi, fratelli.
Film historique, Le Prince de Hombourg l'est à n'en pas douter. C'est un film en costume du 19e pour rappeler que Kleist écrivit sa pièce vers 1810 pour inciter la famille Hohenzollern à combattre Napoléon. C'est aussi un film psychologique dans lequel le réalisateur dit avoir voulu, je cite, outrepasser les confins de la conscience et voir avec les yeux du subconscient. De ce point de vue, le prince tombe à point en héros romantique amoureux, à cheveux ébouriffés et émerveillé par un rêve, un soir de pleine lune. Il est guidé par la spontanéité et les sentiments et sera évidemment confronté à un ordre qui le dépasse, comme tout bon héros tragique de théâtre. Et bien sûr, au risque de quelques raccourcis hâtifs, on a envie de voir dans ce long métrage des années 90 un film d'une actualité brûlante, ce que permet un peu l'ancrage du réalisateur. réalisateur à l'extrême gauche. D'abord parce qu'un réalisateur italien qui reprend une pièce allemande, c'est un peu l'Europe du Sud qui regarde celle du Nord. Ensuite parce qu'on voit exalter le parcours d'un homme fougueux face à un chef militaire inflexible. C'est donc l'exaltation qui regarde la rigueur, rigueur d'un ordre établi dont il sera évidemment et rapidement la victime et qu'il va essayer d'accepter pour peut-être mieux le combattre. Et puis enfin, le sujet militaire du film invite à voir des oppositions frontales ainsi que des jeux de tactique et de politique. Bref, vaut-il mieux changer ses désirs que l'ordre du monde ? C'est en filigrane la question posée par ce prince de Hambourg qui sort demain en salle. Et pour ceux qui préfèrent les DVD, je termine, Caroline, en vous signalant une autre pépite, un film de 1971 de Ted Kotcheff, le père de Rambo, qui avec Wake in Fright nous plonge dans une Australie pour le moins étrange. Vous voyez, parfois, c'est avec de vieux films qu'on fait des événements du jour à ne pas manquer.
La chronique de Thibaut Sardier, les 12h31.